Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Mélanie. Je suis ravie qu'elle soit la première aide-soignante invitée à mon micro, une profession malheureusement victime de beaucoup de stéréotypes et de méconnaissances. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Comment tu vas?
Ça va bien et toi?
Ça va très bien, je te remercie. Je te remercie d'être avec moi aujourd'hui. On s'est connus virtuellement sur Instagram. Et tu m'as envoyé un message, d'ailleurs, pas forcément pour participer au podcast. Je trouvais ton profil intéressant et je t'ai proposé de participer.
C'était pas du tout, c'est vrai que c'était pas du tout, ma démarche n'était pas du tout pour participer. Et en fait, quand tu m'as proposé... j'étais très contente, en même temps intimidée, et du coup, je suis contente aussi de participer.
C'est génial. Ouais. Je trouvais ton profil très intéressant, et donc tu es la première aide-soignante à participer au podcast.
Je suis très
voilà,
contente.
Voilà, c'est toi qui ouvres le bal.
Super.
C'est un métier que je voulais mettre en lumière depuis longtemps. C'est, pour les personnes qui ne sont pas du milieu médical, c'est vraiment le binôme infirmier de soignant qui constitue voilà moi ma journée de travail en tant qu'infirmière j'envisage pas voilà ma journée sans mon petit binôme et soignant. On est vraiment le duo qui fait le job quoi et je suis très très contente de t'avoir à mon micro pour que tu puisses nous en dire un petit peu plus. Et puis pour démarrer, je te laisse te présenter pour les personnes qui nous écoutent.
D'accord. Alors du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Mélanie. Je vais avoir bientôt 24 ans. Je suis diplômée aide-soignante depuis 3 ans. Donc, je suis de la région du Grand Est. Et donc, actuellement, je travaille en service de réanimation. Avant cela, j'ai fait un bac pro accompagnement soins et services à la personne. C'est une porte qui s'est ouverte. On va dire qu'après ce bac, j'ai eu plusieurs portes ouvertes. Donc ça m'a bien aidé dans mon parcours professionnel.
Donc le choix de faire le bac pro, il arrive sur les coups de 15-16 ans, cette décision voilà, de partir
Oui, c'était. J'ai tout de suite, on va dire que les études bac général, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment découvrir une profession et c'est vraiment ce qui s'est passé, ça m'a vraiment aidé. Je suis quelqu'un de plutôt souriante au quotidien et j'essaie de le montrer au travail aussi. Je pense que ça aide. Pour les patients, tout ça, ça me semble important.
Non, c'est certain.
Oui.
Et ce bac, le bac ASSP, si je ne dis pas de bêtises.
Oui,
voilà, j'ai fait mes petites recherches quand même avant de t'inviter. C'est un bac qui ouvre voilà, vers les métiers de la santé, du paramédical.
Exactement.
Est-ce que c'est une formation que tu as appréciée, que tu conseillerais pour arriver sur des formations comme une formation d'aide-soignant ou d'infirmier?
Alors oui, tout à fait, parce qu'on pourrait croire que voilà, les bacs professionnels sont souvent, on les met souvent au second plan. Et en fait, pourtant, c'est vraiment quelque chose qui permet d'ouvrir des portes parce qu'on fait énormément de stages, on découvre des milieux professionnels, on apprend aussi à travailler très jeune. Donc vraiment, ça ouvre des portes, on apprend énormément de choses. Donc c'est sous-estimé et donc pour moi, ça mérite vraiment d'être un peu plus connu et... Voilà, faut un petit peu moins les sous-estimer, ces bacs pro.
Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Et après ce bac, du coup, tu t'es orientée vers la formation d'aide-soignante.
C'est ça. Donc, après le bac pro, j'ai travaillé d'abord pendant un an à peu près. Donc, grâce à mes stages, j'ai tout de suite trouvé du travail après le bac. Et seulement après, j'ai passé le concours pour entrer à l'école d'aide-soignante. C'est sur concours, donc avec un écrit et un oral. Et voilà, donc j'ai été tout de suite, j'ai été prise, j'étais très contente. C'est beaucoup de stress, mais après, on est fiers.
Est-ce que tu sais si aujourd'hui, c'est comme la formation pour devenir infirmier, est-ce que maintenant, ça passe par Parcoursup? Est-ce que ça a changé ou est-ce que...
Alors, il me semble que non. Je vous avoue que je ne sais pas trop maintenant comment que c'est, mais il me semble que c'est toujours au minimum un oral. Pour entrer à l'école d'infirmière maintenant c'est sur Parcoursup quand on sort du diplôme, enfin quand on sort du bac pardon. Et donc par contre quand on est déjà professionnel après c'est toute une autre démarche à faire, mais sinon c'est vraiment sur Parcoursup oui. Pour les étudiants sortant.
D'accord, de... ouais, on n'est plus trop à la page de tout ça. Puis c'est vrai qu'une fois qu'on n'est plus dedans, moi, je suis plus trop bien renseignée à ce sujet-là.
Ouais, c'est ça. Même mon métier, du coup, pour moi, être soignante, je ne sais plus exactement, mais il me semble que ça ne se fait pas sur Parcoursup. Je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà.
Ok. Alors, cette formation, combien de temps? Comment ça se passe? Est-ce qu'on fait des stages? Est-ce qu'on a une sorte d'alternance? Comment ça se déroule?
Oui, alors en fait, donc on a les périodes à l'école, donc avec les cours classiques, avec les professeurs. On a aussi des intervenants extérieurs, C'est un petit peu plus rare qu'à l'école d'infirmière, mais on en a aussi. Et donc, il y a aussi beaucoup de stages. C'est une formation qui dure un an, donc c'est très court. Pour moi, c'est un petit peu trop court. Bon, on en a toujours un peu marre, bon, c'est stressant, il y a les partiels, tout ça. Donc, ça peut paraître très long, mais en fait, quand on travaille après, on se rend compte que c'est très court et il faut vraiment se donner à fond. On a énormément de stages, il faut tout le temps s'adapter au milieu de stage, aux professionnels, aux équipes. Voilà, ça demande beaucoup d'investissement et de travail, mais c'est une bonne formation. Pour moi, c'est une bonne formation.
Quand j'ai commencé la formation pour devenir infirmière, on obtient plus ou moins l'équivalence du diplôme d'aide-soignant au bout d'un an. Et moi, ça me choquait de me dire, mais oh, je pourrais être sur le terrain et exercer ce métier maintenant. C'est, comme tu dis, c'est si court à la fois.
Oui,
on apprend tellement de choses, la physiopathologie, l'anatomie. Je me voyais pas travailler si vite. Et à la fois, je vois tout à fait ce que tu veux dire, où on est impatient d'être sur le terrain puis d'en finir avec la théorie.
C'est ça, c'est très condensé quand même. On va dire que la formation est très condensée pour être soignante, mais j'imagine que pour infirmier aussi, même si c'est plus long. Mais c'est très condensé, il y a énormément de cours, de partiels, de choses à apprendre. Et en même temps, bah voilà, être sur les stages, et c'est pas forcément facile, mais voilà, c'est court, condensé, et ça mériterait parfois d'être un petit peu plus long, pour moi.
Et une fois le diplôme en poche, comment ça s'est passé du coup pour ton premier poste ?
Donc alors pour moi j'ai fait mon école sur l'hôpital public, donc on va dire qu'après pendant l'école il y a des personnes qui viennent plus ou moins vous recruter, donc souvent pour du domicile, pour des agences intérim, certaines EHPAD, donc c'est les maisons de retraite, et notamment du coup l'école pour qui sur l'hôpital on a plus ou moins une facilité d'accès pour travailler sur l'hôpital. Donc moi j'ai tout de suite après mon diplôme, j'ai tout de suite postulé donc sur l'hôpital public et, où j'ai passé un entretien avec des petites questions. Donc, faut quand même s'y préparer. On sort du diplôme, donc on est censé encore avoir des connaissances toutes fraîches, si je puis dire. Donc voilà, on nous pose quand même quelques petites questions. Il faut être à la hauteur, il faut montrer qu'on veut travailler. Et puis après, ça s'enchaîne.
Et pendant cet entretien, on t'a fait part des postes qui étaient vacants éventuellement que tu aurais pu occuper. On t'a laissé le choix, enfin je veux dire, on t'a présenté plusieurs opportunités.
C'est ça, donc on vous laisse pas vraiment le choix, c'est ce que je regrette. On va dire qu'il manque énormément de monde, donc on est très vite dirigé à droite ou à gauche au début. Mais pendant l'entretien, on nous propose quand même des services, des postes, par exemple, est-ce qu'on est intéressé par la cardiologie, par la réanimation, par les urgences ? Voilà, donc plutôt des services de médecine, de gériatrie, de chirurgie. Donc moi, voilà, je sortais du diplôme, tout m'intéressait, j'ai plus ou moins dit mes préférences. Mais après, c'est vrai que quand on sort du diplôme, on ne sait pas encore vraiment travailler, si je puis dire. Donc c'est seulement au fur et à mesure qu'on apprend. Donc au début, voilà, moi personnellement, j'étais un petit peu d'accord pour tout.
Et alors, ton choix s'est orienté vers quel service ?
Eh ben, écoutez, j'ai pas vraiment choisi, pour être honnête. Les trois premières semaines, je me souviens qu'on m'a fait admettre dans le service de d'hépato-gastro-entérologie. Et en fait, je pensais que du coup, j'allais rester un moment. Et finalement, non. Au bout de trois semaines, on m'a appelé pour me dire lundi, vous commencez au brûlé. Donc là, par contre, c'est le stress tout de suite. J'étais contente. Mais en même temps, très stressée. C'est quand même beaucoup d'angoisse.
C'est un service qui est tellement impressionnant.
C'est ça. Donc, quand on arrive, on est un peu jeté dedans. Et puis après, on attend que ça roule, quoi. On se donne les moyens de réussir, mais c'est pas facile.
Si ça intéresse certaines personnes, j'ai l'épisode 5 qui est dédié à l'expérience de Stéphanie, qui était infirmière chez les Brûlés, qui est un épisode passionnant. Mais c'est vrai que c'est un service, alors j'imagine, qui est terrifiant, la complexité des soins, du public reçu. Oui, t'as dû arriver quand même un peu stressée.
C'est ça, c'est un petit peu impressionnant maintenant. Avec le recul, du coup, travaillant en réanimation, je me rends compte que pour moi, ça a été plus impressionnant la réanimation polyvalente, bizarrement, que les brûlés. Même si au départ,
d'accord,
quand on sort de l'école,
c'est intéressant.
C'est très différent, c'est vraiment très différent et on peut pas comparer les deux.
C'est surtout des services, je pense, qui sont très impressionnants. Au niveau des soins, on a souvent cette image des patients qui ont une quantité de tuyaux qui sort du corps, c'est très impressionnant, mais
c'est une réalité. C'est vrai que on voit les films, mais c'est vrai quand on arrive en face, c'est une réalité. Et c'est vrai que moi, en sortie de diplôme, donc je suis arrivée au service des brûlés, et on vous parle de tuyaux d'aspiration, de centres d'intubation, de patients traqués, de pansements, de stériles, d'organisation, de bloc opératoire. Et en fait, on s'imagine, on se fait des films, quoi. On s'imagine plein de choses. Et puis après, voilà, il faut pas avoir peur de poser des questions, de vraiment se renseigner, de prendre des notes, de bien réfléchir, de s'intéresser, en fait. Je pense que le tout, c'est de s'intéresser vraiment au service dans lequel on est
adonné. L'imaginaire, comme on dit toujours, ça crée beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'une fois qu'on se renseigne, qu'on rentre dans le vif du sujet, on est moins effrayé et on appréhende les choses plus facilement, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les personnes qui nous écoutent, quel est le rôle de l'aide-soignant ? Je sais qu'on confond très souvent l'aide-soignant, l'infirmier. Est-ce que, alors, c'est votre rôle, il est pas résumable en quelques mots, mais est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier ?
Oui, alors du coup, moi, mon métier d'aide-soignante, par contre, il n'est pas régi ni par une loi, ni par un décret. C'est-à-dire qu'on agit sous la responsabilité de l'infirmière toujours, en collaboration avec l'infirmière, sous sa responsabilité, donc d'où le binôme. Souvent, on parle de binôme, et c'est réellement ça. Par contre, moi, mon rôle, c'est vraiment d'assurer les soins de confort, les soins d'hygiène, de maintenir la propreté aussi des locaux, du matériel, de passer les commandes du matériel qui manque. On alerte, on observe aussi, c'est vraiment de l'observation.
Vous anticipez. En fait.
C'est ça, c'est de l'observation, on anticipe et on alerte. Donc, on observe l'état clinique de la personne, il faut aussi tout prendre en compte, c'est pas seulement, c'est ce que je reproche souvent quand on parle de mon métier, c'est que c'est souvent, voilà, c'est l'aide-soignante, et là, vulgairement parlant, je vais dire nettoyer des fesses. Mais, alors déjà, il faut pouvoir le faire, moi c'est ce que j'aimerais dire aux gens, c'est qu'il faut déjà pouvoir le faire, c'est pas inné, et en plus de ça, ce n'est pas que ça, mon métier c'est aussi des connaissances, c'est faire les liens aussi avec les pathologies. On peut se permettre de faire tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas autant de responsabilités que l'infirmière. Et mon rôle, il sera toujours en collaboration. Après, il y a aussi du dépassement de tâches, dont on ne parle pas forcément souvent. Enfin, on l'entend parler, mais c'est vrai que quand on le fait, c'est autre chose aussi. On prend la responsabilité. On a aussi des responsabilités en tant qu'aide-soignante. Un patient qui va pas bien, il faut savoir le dire, que ce soit au médecin, que ce soit à l'infirmière, il faut savoir le dire. Donc c'est vraiment de l'observation, c'est des connaissances et on est capable d'agir et d'avoir des réactions vraiment professionnelles vis-à-vis du patient qu'on a et dont on s'occupe.
Et c'est pas que de, t'as tout à fait raison de le dire, c'est pas que de l'action, c'est pas que faire des soins d'hygiène, c'est pas que faire des toilettes. Moi, je vous vois vraiment en tant qu'infirmière comme si vous étiez à la fois mes yeux, mes mains et mon cerveau, parce qu'il y a des choses que vous voyez que nous on ne voit pas, il y a des choses sur lesquelles vous nous alertez avant que nous on les voit, parce que, bah, comme dans tous les métiers, on est occupé sur beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de choses qui nous prennent du temps, et vous êtes précieux dans ce métier, parce que vous n'êtes pas là que pour effectuer les soins qui vous sont délégués par l'infirmière. D'ailleurs, je prononce le mot d'infirmière parce que je suis infirmière, mais infirmier
bien sûr.
Mais,
c'est vrai, oui.
Mais vous n'êtes pas juste là pour exécuter ce qu'on vous demande d'exécuter ou réaliser, parce qu'on dit souvent l'infirmière délègue à l'aide-soignante. Mais l'aide-soignante, elle n'est pas juste là pour effectuer des soins qui lui ont été délégués. C'est tellement plus compliqué que ça. Mais c'est très bien de le rappeler. Vous avez un rôle qui est essentiel. Et moi, j'ai pas honte de le dire, on est vraiment rien sans vous.
Et nous, on est rien sans vous aussi.
Il faut que le binôme fonctionne, mais j'ai vraiment vécu des situations catastrophiques. Et si l'aide-soignant n'avait pas été à mes côtés et n'avait pas agi comme il fallait agir, il y avait probablement des gens qu'on n'aurait pas récupérés ou des problèmes qu'on n'aurait pas décelés assez vite. Et c'est très bien de le dire.
Exactement. Et c'est vrai que pour moi, sincèrement, en tout cas là, en réanimation polyvalente, et c'est ce que je veux vraiment essayer de faire tout au long de ma carrière, c'est ce binôme infirmier aide-soignant. Moi, je ne pourrais pas travailler sans mon infirmière et sans mes collègues aide-soignants, c'est pareil. Je participe aux visites médicales. Ça me semble aussi être important de savoir, de connaître la vie du médecin. En fait, c'est avant tout réfléchir. Ce n'est pas seulement faire sans penser. C'est vraiment penser, réfléchir et mettre des actions en place pour le patient, parce qu'il faut pas oublier que c'est un être humain dont on s'occupe et parfois on a besoin de réactivité, d'action et en même temps de réflexion. Et tout ça, il faut savoir les mêler, les mélanger et c'est important. C'est comme ça que le travail se fait vraiment.
Tu parlais de dépassement de tâches, c'est quelque chose que tu vis au quotidien, des choses qu'on te demande de faire, qui font pas partie des soins que normalement tu as le droit de faire en tant qu'aide-soignante ?
Exactement. Mais par contre, je ne suis pas cette soignante qui dit. Je sais d'un côté que je mets parfois on va dire que c'est des responsabilités que je prends et dont je ne suis pas censée prendre. Mais c'est vrai que je ne fais pas partie des personnes qui vont dire je refuse parce que. Si je refuse, c'est que vraiment, je ne m'en sens pas capable. Si j'accepte, j'ai toujours un œil derrière moi. Donc après, oui, il y a du dépassement de tâches souvent, mais c'est vrai que j'en veux aussi parfois à l'organisation du métier d'aide-soignante. J'aimerais qu'on ait parfois un décret qui nous autorise à voilà piquer une glycémie. Parce que on apprend à des patients à le faire eux-mêmes quand à des patients diabétiques. Et nous, c'est vrai qu'on normalement on nous refuse et on n'a pas le droit de le faire.
Donc on parle des petites piqûres qu'on fait au bout du doigt pour calculer le taux de sucre des patients. Et c'est vrai que c'est un geste que vous n'êtes pas censé pouvoir faire, mais qu'en réalité on vous délègue très régulièrement. Ouais. Ça fait partie des choses qui pourraient rentrer exactement dans un décret.
Dans nos compétences et dans un décret. On veut dire on apprend à le faire et on le fait pas bêtement. C'est-à-dire que moi je sais pourquoi je le fais. Je sais par rapport à la pathologie, c'est pareil. Je fais les liens. Donc ça me semble important de le signaler aussi. Mais c'est vrai que c'est des responsabilités qu'on prend. Et parfois, ça peut nous être un peu reproché.
Ouais. Complètement. Après cette expérience en service de brûlé, du coup, c'est à ce moment-là que tu es arrivée par la suite en service de réanimation.
C'est ça. Donc, encore une fois, on m'a pas forcément demandé mon avis. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais beaucoup d'appréhension parce que du jour au lendemain, on m'a dit « Lundi, tu commences en réanimation polyvalente ». Donc c'est pareil, on ne connaît pas le service, on ne connaît pas les locaux, on ne connaît pas l'équipe. Et non, on est une équipe énorme. Enfin, il faut savoir qu'on est plus de 120, 130, il me semble. En comptant médecins, infirmiers, soignants.
Ah oui. Ah là là, ouais. C'est une ville, quoi.
C'est ça. Donc on est une grosse équipe et c'est pas facile d'arriver dans une grosse équipe et avec des soignants qui sont là depuis très longtemps, avec des connaissances et des compétences incroyables. Donc... Mais aujourd'hui, je changerai pour rien au monde.
Bon, alors sans regret, du coup, d'être arrivée dans ce service.
Alors là, pas du tout. Aucun.
Est-ce que c'est ton expérience avec les brûlés qui t'a permis d'accéder à un service de réanimation ou est-ce qu'une aide-soignante jeune diplômée peut postuler dans un service de réanimation dès le diplôme, par exemple?
Alors, je pense qu'une jeune aide-soignante diplômée peut postuler dans un service de réanimation. Maintenant, c'est en fonction de l'hôpital, des besoins aussi. Mais c'est vrai que moi, je suis tout de suite arrivée au brûlé. Mais le brûlé, c'est aussi 6 patients de réanimation brûlés. Et donc, c'est vrai que je suis arrivée, je sortais du diplôme. Donc, je pense sincèrement que quand sortie de diplôme, on peut postuler. Oui, c'est ça, on peut postuler.
Okay.
C'est dommage qu'on nous les refuse un petit peu à l'école d'aide-soignante, en fait. Mais après, on y arrive.
Oui, parce qu'au final, toi, toute jeune diplômée, t'as été catapultée dans ces services-là tout de suite, donc c'est que c'est une réalité, c'est que ça arrive.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous donner une journée type, je sais pas, par exemple, tu commences un matin sur les coups de 7h, je sais pas à quelle heure tu commences, comment démarre ta journée?
D'accord, alors du coup, moi il faut savoir que les postes de réanimation, c'est des postes de 12 heures. Donc il n'y a pas de matin, il n'y a pas d'après-midi, ça se passe vraiment sur une journée de 12 heures. Donc la continuité des soins est de ce côté-là, je trouve parfaite. Alors moi le matin quand j'arrive, je commence par préparer le café pour mes collègues, ça c'est très primordial.
La base.
Donc voilà. C'est ça. Donc ensuite, le service est divisé en 3 secteurs. Donc, en fonction de la répartition des soignants, on va dans le secteur où on est affilié. Donc, on est avec, en tant qu'aide-soignante, et on est avec une autre aide-soignante et 3 infirmières. Donc, ça fait 2 aide-soignantes et 3 infirmières sur un secteur. Et c'est un secteur de 8 patients. Donc, on commence, on arrive, et là, on prend la petite feuille de papier et les transmissions commencent. Donc, on voit la veille... quel patient est attribué à qui, donc, et c'est vraiment là que commence le binôme infirmier aide-soignant. On prend nos transmissions et puis donc c'est parti, on commence par faire les soins de confort, les soins d'hygiène, donc la toilette du patient. Donc après, un patient de réanimation, souvent c'est un patient intubé, sédaté, donc souvent endormi, pas toujours, mais c'est souvent comme ça que ça se passe.
Ce qu'on appelle des comas artificiels pour les gens qui nous écoutent, des patients qui sont sédatés volontairement.
C'est ça, et ventilés à l'aide d'une machine parce que c'est des personnes qu'on peut pas qui respirent à l'aide d'une sonde d'intubation. Donc de là, on commence nos toilettes. En général, on a 4 patients maximum pour une aide-soignante. Après, les infirmières se répartissent autrement. Oui, c'est quand même comparé à d'autres services où il y a 15 patients, ça va, mais c'est vrai que c'est 4 patients de réanimation, c'est quand même important. Donc là, il faut faire les toilettes, les soins de bouche, donc les soins de bouche sur des patients intubés. Ensuite, la journée se déroule, il y a aussi le remplissage des chambres. Il faut toujours que nos chambres soient remplies impeccables, si je puis dire. Donc il faut vraiment du matériel complet dans la chambre, il faut rien oublier parce que sinon ça pénalise l'équipe, ça met l'équipe en difficulté s'il y a une urgence ou quoi que ce soit. Voilà, c'est très important. Après, on commence par faire le remplissage de nos chambres. Après, on remplit aussi le matériel, donc des chariots extérieurs près de la paillasse, là où on a les ordinateurs. On essaie de faire à peu près 3 à 4 nurses par jour. Donc quand je dis nurse, c'est pareil, c'est les soins de confort. On met de la crème dans le dos des patients pour éviter les escarres au niveau des talons, des coudes. On refait les soins de bouche parce que les patients intubés... On va dire que les escarres se développent beaucoup plus facilement. Il peut y avoir énormément de bactéries qui se développent dans la cavité buccale. C'est très important de veiller à faire des soins de bouche régulièrement, d'éviter de la macération, d'éviter l'apparition des escarres. Donc ça passe par des massages, des effleurages. Donc voilà, tout se passe en binôme toute la journée. Après, une journée type en réanimation, il n'y en a pas tellement parce qu'on peut avoir une admission. On peut avoir malheureusement des personnes en fin de vie, donc des décès. On a aussi les visites des familles, donc il faut accueillir les familles, il faut leur expliquer un petit peu s'il y a des personnes qui n'ont jamais vu leurs proches dans un état comme ça, ça ne peut pas être facile. Et on a la visite médicale avec le médecin aussi, c'est pareil. On fait vraiment tout en binôme toute la journée, mais la journée peut très rapidement changer.
Hein. Elle est un peu traître ma question, mais c'était pour comprendre comment ta journée démarrait, mais c'est complètement aléatoire.
C'est très aléatoire.
Donc, une toilette de patient sur un patient en réanimation, il faut quand même le dire, c'est une toilette où tous les soins de confort que tu évoques, ce sont des patients qui sont branchés, que ça soit pour des capteurs, pour le pouls, le taux d'oxygène dans le sang, la capnose, donc sur la sonde d'intubation. C'est vraiment des tuyaux qui sortent de tout le corps, les drains, les pansements, les différentes sondes. C'est de la couture, quoi. Pour réussir à se faufiler entre tous ces câbles sans mettre le patient en danger, c'est des toilettes qui durent beaucoup, beaucoup plus longtemps qu'un patient semi-autonome ou même dépendant, mais c'est radicalement différent de ça.
Exactement, c'est une prise en charge très lourde, on va pas se mentir, c'est quand même très complet, très lourd, et il faut faire attention à tout, il faut faire attention à la sonde d'intubation, à tous les câbles, au cathéter artériel, aux voies centrales, donc tout ça c'est des équipements que le patient porte, ça nous permet de le surveiller, ça permet aux infirmières de faire leur bilan, donc il faut rien arracher, il faut vraiment faire attention à tout, et puis parfois il arrive des problèmes quand malheureusement... On fait ces soins-là, donc là, c'est action-réaction, il faut tout de suite réagir. Quoi. Donc, ça demande énormément de rigueur, de surveillance, et voilà. C'est très...
Ouais, je crois que rigueur, c'est le bon mot. Ça demande une rigueur incroyable. Tu as parlé de nudité, du fait de toucher des corps. Alors, je me souviens plus si c'était dans le message que tu m'as envoyé ou même tu l'as un peu évoqué en début d'épisode. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend à gérer, à apprivoiser, comment on s'y fait ?
Alors oui, on apprend tout ça pour ma part, vu que j'ai commencé très tôt les stages, donc dû au bac pro, je pense que je devais avoir quelque chose comme 16 ans. Donc 16 ans, on commence à toucher des corps, il faut prendre en compte que ces corps sont souvent douloureux, il y a une histoire derrière, il y a... Toucher quelqu'un, c'est rentrer dans son intimité, donc c'est pas forcément quelque chose de facile. Après... on apprend à le faire, on l'apprend aussi à l'école d'aide-soignante, mais c'est vrai que c'est sur le terrain réellement qu'on apprend à faire les choses. Parce que
je suis tout à fait d'accord.
Il y a des réactions aussi qu'on observe chez les patients, qu'ils soient endormis ou non, et il faut vraiment pas oublier que c'est vraiment un corps humain qu'on touche, et il faut se mettre à la place aussi. C'est vrai que nous, personne ne vient nous mettre un gant de toilette dans le visage pour nous faire la toilette. C'est toucher voilà des parties intimes. C'est pas forcément facile et ça s'apprend, ça s'appréhende aussi. Et voilà, au début, c'est pas forcément facile, mais c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Il faut surtout pas oublier que le corps a une histoire. Voilà, c'est le plus important, je pense.
Ouais, t'as tout à fait raison. De quoi est-ce que tu manques au travail ou dans ta pratique ou par ton expérience ?
Je dirais d'écoute. Pas forcément des collègues, mais de tout ce qui est bien au-dessus. Je pense qu'on manque d'écoute, on nous écoute très peu. c'est pas pour rien qu'on entend aussi toujours beaucoup de choses à propos des manifestations, tout ça. Donc, voilà, il y a déjà le salaire qui rentre en compte. C'est sûr que je peux pas demander, voilà, moi avec une année d'études en plus, je peux pas demander un salaire non plus énorme, mais je pense à tous les professionnels de santé, que ce soit kiné, que ce soit infirmière, ergothérapeute, moi aussi, aide-soignante, je pense que le salaire, c'est quelque chose de très délicat dont on parle très souvent, mais c'est très tabou, et sinon, de reconnaissance aussi, d'écoute, on nous écoute très peu, on prend très rarement en compte nos paroles, c'est vrai qu'on, parce que les gens savent qu'on aime ce métier, que c'est véritablement une vocation. Et je pense sincèrement, je le dis des fois, je dis on pourrait me payer 5 € de l'heure, que j'irais toujours travailler. Parce que on a cette conscience professionnelle et on est là quoi qu'il arrive. Et on se le prouve chaque jour, même encore voilà en ce moment, à cette période, on dépasse nos limites tout le temps. Donc ce qui manque, lui, c'est l'écoute, c'est la présence aussi.
La considération générale.
La considération, voilà, c'est ça, la considération, l'écoute...
Mais s'il n'y avait pas cette notion de vocation, je pense que les choses seraient radicalement différentes, parce que je pense que justement les responsables d'unités, d'hôpitaux, ils comptent beaucoup sur cet aspect vocation pour, comme tu dis, ne pas revaloriser les salaires, mais même sans parler de salaire, même de juste de considération, c'est vrai que c'est la base. Et il y a cette notion de vocation, je suis tout à fait d'accord avec toi, où on part du principe que, bon, bah, ils ont l'air d'être heureux dans ce qu'ils font, après tout, ils aiment bien.
C'est un petit peu du chantage et c'est du dépassement de limite, c'est-à-dire que tant qu'on est là, tant qu'on donne et tant qu'on tient le coup, ben les choses ne changeront pas forcément. Parce qu'on est là et qu'on sera toujours présent. Mais après, moi, j'essaie de ne pas prendre ce côté négatif des choses. Parce que sinon, je pense qu'on n'a pas fini.
Quoi. Ça se voit. Ouais, t'es dans l'optimisme sans faille.
C'est important.
C'est bien.
C'est ça. Faut vouloir aller au travail. Donc, c'est moi, le travail va faire partie. C'est fait partie intégralement de toute ma vie. Donc, je me dis que j'y passe le 3/4 de mon temps, donc pourvu que ça se passe bien. Même si parfois c'est difficile et je vais pas cacher que voilà, il y a des moments très, 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 très durs, douloureux où on rentre chez nous, on se demande pourquoi on fait pas vendeur de bonbons, de chocolat, pourquoi on vend pas des fleurs. Mais après, voilà, c'est plus facile de se dire ça comme ça, on va dire.
Quels sont les moments difficiles pour toi? Les annonces de diagnostic, les décès, les histoires compliquées?
Les histoires compliquées, c'est souvent aussi les familles qui me prennent très à cœur parfois. C'est vrai que il y a des histoires, voilà, c'est des fois il y a des jeunes personnes, des fois il y a des personnes âgées, donc oui, c'est l'histoire de la vie, mais parfois les patients ne méritent pas de souffrir. Et c'est vrai que quand on a des familles qui font dans l'arme, qui nous demandent si c'est encore possible de réveiller le patient, si c'est compliqué. C'est vraiment compliqué à gérer parfois, puis là, je vais parler un petit peu du Covid, mais c'est vrai que c'est difficile de faire face à quelque chose qu'on ne connaît pas, de voir nos médecins être perdus, avoir peur. Du coup, ça, nous, c'est pareil, on se dit, mais mince, quoi. Où on va, qu'est-ce qu'on fait?
Ça remélange complètement les cartes, comme tu dis, parce qu'on part sur une maladie qu'on, malgré le fait qu'elle ait un peu plus d'un an, qu'on connaît encore très mal.
C'est ça, c'est ça. Et puis parfois, c'est vrai qu'on a beau tout donner, tout faire et... En fait, on ne connaît pas, on n'y arrive pas. Et là, c'est pas seulement la partie Covid, mais c'est vrai que parfois, on fait face à des pathologies où on a beau tout donner et tout faire pour les patients. Parfois, ça suffit pas, donc c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est souvent par rapport aux familles où ça nous prend parfois à cœur. Voilà.
Ouais, c'est sûr. Vous avez une partie du service, du coup, qui est dédiée à la prise en charge des patients Covid. Comment ça s'est organisé ces derniers mois?
Alors, au tout début, mars, il y avait un service, en fait, on a fait du cohorting, donc en fait on avait vraiment scellé, si je puis dire, les services et notamment la réanimation qu'on avait mis totalement à part. Donc c'était très fermé, c'était incroyable quoi. On devait se changer dans de multiples vestiaires pour pouvoir rentrer dans le service de soins. Et dès qu'on devait aller manger ou aller aux toilettes, on devait se rechanger et c'était énormément de fatigue, c'était énormément d'épuisement en fait. C'était donc là à l'heure actuelle on n'a plus de service de cohorting, donc on a plus besoin de se changer, mais c'est vrai que on a de nouveau une recrudescence de patients Covid et ça, moi je me dis ça fait presque un an et on s'en sort toujours pas, donc c'est compliqué.
Et on s'en sort pas, ouais,
c'est ça. Et après il y avait des services au mois de mars par exemple là, il me semble que c'est la néphrologie qui avait ouvert du coup un service de réanimation, donc on avait dû adapter.
D'accord.
Les respirateurs c'était compliqué. Hein. Oui, c'était...
Créer un service.
C'est ça, on a dû créer des services pour faire face et pour accueillir des patients parce qu'on n'avait pas suffisamment de lits.
Moi, je sais pas comment ça s'est passé dans ton équipe, mais nous, on a eu la première vague, puis la seconde vague. Et alors là, je parle pour moi parce que je peux pas parler au nom de tout le monde, mais la première, on était dedans, la deuxième, on l'a vu venir. Et puis, je sais pas, là, il y a comme une sorte de pas de relâchement, mais on est un peu, ouais, on est un peu blasé ou je sais pas, ouais, fatigué. Mais et encore, moi, je suis pas touchée par le Covid de près, donc j'ai pas du tout le droit de me plaindre. Mais il y a une sorte de ouais, on est un peu résigné, je sais pas, mais cette impression qu'on va pas s'en sortir, même si le vaccin arrive et que clairement il y a quand même des solutions, mais je sais pas comment c'est ressenti dans ton équipe.
Alors moi, pour ma part, on a été pour la première vague très 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 soudés. Enfin, après nous, voilà, on est 150, donc c'est divisé en petites équipes. Moi, mon équipe a été très 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 soudée. J'ai trouvé qu'on a été qu'on a fait un travail sincèrement formidable et je remercie infiniment mes collègues pour ça. Et donc on a eu cette période où on était très fusionnel, très soudés. On honnêtement, on rigolait, on faisait beaucoup de bêtises aussi en dehors pour essayer de relâcher la pression. Ça nous faisait du bien. On était vraiment, même si c'était dur, on était vraiment dedans. Et en fait, le fait d'être sorti un petit peu, d'avoir un petit peu de relâchement et maintenant de revenir, c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde est plus sous tension. Il y a beaucoup plus de nervosité, de fatigue. C'est, on
voit, complètement.
Moi, je le lis sur les visages de mes collègues. Il y a énormément de fatigue, tout le monde est à bout. Et c'est vrai que c'est très... Il y a une ambiance un petit peu irritable. C'est-à-dire que dès que quelqu'un fait quelque chose, c'est tout de suite très souvent mal pris. Et je comprends, je comprends parce que...
Ouais, la nervosité, je suis tout à fait d'accord. Ou même les gens deviennent plus susceptibles ou il y a une sorte de tension qui est permanente. Et même, je trouve, dans le rapport avec les patients, les médecins, je le ressens beaucoup récemment. Ouais. Ah bah c'est bon, bah tu vois, ouais, c'est un sentiment partagé alors.
Oui, c'est ça. Et je pense que c'est légitime. Après, par ce par quoi on est passé, je pense que c'est légitime. Et puis comme on voit qu'on n'arrive pas forcément à s'en sortir, et ben c'est encore plus pesant. Donc je pense que ça revient sans cesse, et du coup, ouais, c'est un petit peu compliqué, mais ça va. On essaye quand même de faire face.
Et pour partir sur une note un peu d'espoir, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, du coup, Mélanie ?
Eh ben, j'espère en tout cas, on va dire que j'ai pour projet de voir pour passer à l'école d'infirmière, de faire une demande pour rentrer à l'école d'infirmière. J'hésite encore, je prends bien le temps de réfléchir, parce que c'est quand même une reprise de 3 ans d'études, donc... C'est pas forcément évident et après je vais dire que j'ai rien à perdre. C'est vrai que mon métier d'étudiante, je l'aime énormément, ça me tient vraiment à cœur. J'aime ce que je fais, donc je pense que je ne peux que m'améliorer et essayer de voilà d'obtenir des connaissances et des compétences en plus. Mais voilà, j'espère après voilà ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que tout aille beaucoup mieux, que tout se passe beaucoup mieux, un petit peu plus de reconnaissance. Mais voilà.
Ouais. J'espère que le message est passé, mais je suis d'accord avec toi. Un petit peu de considération, un peu de reconnaissance, franchement, ça ferait pas
c'est
de
ça.
Mal.
Exactement, c'est ça.
Et puis, je croise les doigts pour ton projet. Alors, écoute, que ça se fasse ou que ça se fasse pas, peu importe, mais en tout cas, c'est bien déjà d'avoir cette envie, peut-être, de reprendre tes études. Ça veut dire que, ouais, que t'arrives à voir plus loin. Je trouve que c'est génial d'avoir de l'ambition, c'est top.
Oui, j'espère aussi. Merci beaucoup.
Mélanie, merci, c'était génial et je suis contente d'avoir un discours aussi clair et aussi honnête sur la réalité des choses. Et puis je suis contente parce que c'était un peu un défi pour moi de demander à quelqu'un de participer au podcast alors qu'il n'avait pas fait la demande de participer. Et je sais pas, dans les quelques mots, les quelques lignes que tu m'as écrites, je crois que j'ai senti ta passion pour le métier et tu vois, t'étais la bonne personne pour venir nous raconter tout ça.
Alors, je te remercie à toi aussi. Franchement, j'espère avoir véhiculé un bon message et montré aux gens que le métier d'aide-soignante, il est aussi important et je suis très contente d'avoir participé aussi. Et voilà, j'encourage encore tous les soignants. Voilà, c'est bon, force et courage.
On va finir ce petit entretien avec le portrait chinois pour savoir encore un petit peu plus sur toi.
Il n'y a pas de souci.
La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique ?
Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Je vais pas être très très originale, mais c'est vrai que je dirais plus. C'est pas vraiment un objet, mais je dirais plus de temps, plus de mains aussi pour pouvoir nous aider à faire plus de choses, à prendre encore à prendre les patients en charge encore mieux, à faire encore des soins de meilleure qualité. Et puis sinon, en réanimation, je dirais des petits respirateurs. Parce que c'est vrai que quand on lève les patients, on lève malades avec des scènes d'intubation. Parfois, c'est compliqué. Avec tous les tuyaux, je le dis, des fois, c'est compliqué. Donc voilà, une baguette magique. C'est pas trop, très original, mais c'est ce qui me ferait plaisir.
C'est très bien comme réponse. Question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail.
Je pense que je dis très souvent... alors déjà, j'ai faim, je le dis tout le temps. Ça creuse, voilà, de travailler, ça creuse. Et sinon,
oh, puis des journées de 12 heures, quoi, faut le dire aussi. Hein.
Sinon, je demande tout le temps, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce qu'il y a besoin d'aide? Je pense que je suis tout le temps en train. Dès que j'ai 5 minutes, j'essaie de voir dans les autres équipes. Donc voilà, je pense que c'est ce que je dis.
À fond.
Voilà, c'est ça.
Question suivante, si tu étais un soin, lequel serais-tu?
Alors, sans hésiter, je dirais le toucher massage, parce que pour moi, ça fait partie vraiment du soin. Et j'aime autant le faire sur mes collègues, parce que c'est vrai que quand on a tous mal au dos, et ben, j'ai toujours des crèmes dans mon sac et des baumes pour masser et mes collègues, et en même temps les patients, parce qu'il y a des patients qui sont très douloureux. Et c'est vrai que ben, voilà, masser des jambes, des bras, des mollets, les épaules, les mains, j'apprécie énormément le faire et je vois le résultat sur les patients, donc voilà, je dirais le toucher massage.
Ouais. Ouais, on peut pas parler de massage parce que donc je crois que le terme de massage est réservé aux kinésithérapeutes, mais en effet toucher massage c'est vraiment sous forme un peu d'effleurement. Moi j'ai eu une toute petite formation, alors je me souviens plus si c'était pendant l'école d'infirmière ou quand j'étais toute jeune diplômée, et je suis d'accord avec toi, genre le massage des mains c'est un truc. Je le fais encore assez régulièrement sur mes patients et c'est pas très compliqué à apprendre, mais c'est un truc en plus, quoi.
Exactement, et puis il existe des petites formations et je trouve que c'est bien, vraiment de... Donc voilà, si je pouvais être un soin, je serais le toucher massage.
La cerise sur le gâteau.
C'est ça.
Question suivante, plutôt thé ou café?
Alors moi, aucun des deux. Je ne bois jamais de boisson chaude, je suis plutôt avec ma grande bouteille d'eau toute la journée, donc voilà.
Donc tu fais le café pour les autres, mais t'en bois pas, c'est beau ça.
Exactement, exactement. Ah oui, c'est pour tous mes collègues, je fais des petits chariots avec les cafés, tout ça, mais je ne bois pas de café ni de thé.
Oh, voilà, mais quel amour. Grande bouteille d'eau. La question suivante, plutôt crocs ou baskets? Et si tu peux nous dire d'ailleurs dans quelle tenue tu es en réa, est-ce que vous avez une tenue de couleur particulière?
Non, alors du coup, on est en tenue blanche classique. Au brûlé, c'est une tenue particulière qui tient beaucoup moins chaud parce que les brûlés, c'est un service où il fait très chaud par rapport aux patients qui sont très souvent en hypothermie par rapport aux brûlures. Mais non, en réanimation, on a une tenue blanche classique avec le petit liseré qui définit infirmière, aide-soignante, voilà.
Donc, okay. C'est ça.
Et moi, je suis pour la team Crocs. Voilà, les chaussures qui respirent.
Question suivante, plutôt 10 ans dans le même service ou 10 services en un an?
Ah, c'est très compliqué, mais je dirais 10 ans dans le même service parce qu'actuellement, j'aime vraiment celui dans lequel je suis. Donc, ça pourrait peut-être changer la donne si j'étais dans un service conventionnel, mais en réanimation, je dirais plutôt 10 ans de service parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. C'est incroyable, en fait. Donc, je me dis en 10 ans, on peut avoir le temps de devenir excellent en réanimation. Voilà.
T'es sûr. Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé ce métier, vers quelles études ou vers quel métier te serais-tu orientée? Sachant que du coup, la réponse infirmière n'est pas acceptée. Hein.
C'est ça, et ben je sais pas trop au final, parce que c'est vrai que j'ai toujours été attirée par le corps humain, tout ça, les soins. Donc, mais vu que j'aime énormément les voyages, hein, je dirais que, je sais pas, chroniqueuse ou journaliste, et vraiment pour les voyages. Si j'avais vraiment changé, mais c'est vrai que je me vois pas faire autre chose.
T'es bien là où t'es, ça se
voilà, sent. c'est ça, je changerai pas.
Mélanie, un grand merci, c'était génial de t'avoir à mon micro aujourd'hui.
Eh ben merci à toi, ça m'a fait vraiment plaisir de participer aussi, je suis très très contente.
Je t'embrasse Mélanie, je te souhaite le meilleur pour la suite.
Merci beaucoup à toi aussi, et plein de belles choses pour tout le monde, plein de beaux projets, et voilà. J'encourage tout le monde, et que ce soit tous les professionnels de santé et toutes les autres professions. Voilà, beaucoup de courage à tout le monde, c'est le message que je veux passer.
Oh, quel beau point d'orgue. À bientôt Mélanie.
À bientôt, merci beaucoup.
Croyez-le ou non, mais je finis cet épisode avec des crampes dans les joues à force de sourire à l'écoute du témoignage de Mélanie. Merci encore à elle d'avoir si bien expliqué son rôle d'aide-soignante, un rôle clé au sein d'une équipe et auprès des patients. Pour soutenir le podcast, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner depuis toute autre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt.